6h39.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 4 octobre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, des sourires devant les enseignants et des bavardages qui ne passeront plus inaperçus. Les écoliers de 47 départements tombent le masque aujourd'hui. Nous serons en Haute-Saône. Plus de masques, ça veut dire qu'il faut plus tester, nous dira un pédiatre. On voit ça après les autres titres, Anaïs.
Bernard Tapie sera inhumé vendredi à Marseille, cimetière Mazargues, l'hommage d'une ville à l'homme d'affaires et fin des poursuites judiciaires dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. L'Église de France, à la veille de la publication du rapport Sauvé dans les paroisses, on prépare les fidèles au choc de l'ampleur des abus sexuels. Et puis en fin de journal, on vous expliquera l'effet isolant des forêts.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
25 ans après sa mort, c'est le dernier secret de François Mitterrand. La journaliste du Monde, Solène de Royer, révèle dans un livre que l'ancien président a vécu une histoire d'amour avec une étudiante de 22 ans pendant les 8 dernières années de sa vie. Solène de Royer sera notre invitée à 7h50.
Et on se retrouvera allez, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui la présidente de la région Île-de-France. Elle est candidate LR à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000. Le standard est ouvert et vous attend.
France Inter.
Une France bicolore ce matin dans les écoles primaires. Les 47 départements verts avec moins de 54 Covid pour 100 000 habitants. Plus de masques pour les enfants. Et puis les 54 autres rouges dans lesquels il faut le garder. Toute une bande frontalière de l'Est aux Pyrénées en passant par le littoral méditerranéen, l'Île-de-France et la Bretagne. Et ce matin, à l'école du Chanois à Saint-Loup-sur-Semouse en Haute-Saône, un air de vide avant le reportage de Jean-François Fernandez.
Loubna a 10 ans, elle apprécie cette nouvelle vie.
Ça me plaît parce que sans masque, on pourra mieux sentir les odeurs de la nature.
Et oui, tous ces longs mois avec le masque, c'était pas terrible.
Ça nous gratte, ça nous rend chaud et quand on rentre dans la récréation, c'est tout mouillé.
Plus de masque, ça va changer la vie pour Assia, 9 ans.
Quand t'as le masque avec tes lunettes, t'as tout le temps de la buée sur tes lunettes. Quand on a de la buée, on ne peut pas voir correctement.
Jusqu'à présent, en classe, c'était impossible, par exemple, d'éternuer. Il fallait sortir de la classe. Mohamed, 8 ans, apprécie de ne plus avoir à porter ce satané masque.
Parce que des fois, mes maîtresses ne comprenaient pas et disaient « Répète fort, s'il te plaît ». Et on répétait à chaque fois.
Pour Rania, 8 ans, en CE2, ça sera encore mieux en classe.
Et la maîtresse, elle nous comprendra mieux parce qu'on pourra mieux articuler. Quand les camarades parlaient, on les comprenait pas avec le masque. On voyait pas c'est qui parlait parce qu'on voyait pas la bouche.
Et le petit Arthur, 7 ans, en CE2, ne se plaignait pas, mais c'était dur pour lui.
Et j'aurais moins chaud. Comme ça.
Sans rechigner, ils ont tous porté le masque. Aujourd'hui, une nouvelle vie commence avec de jolis sourires, des dents de lait tombées que l'on pourra enfin voir, une enfance retrouvée.
Jean-François Fernandez, France Bleu Besançon, tomber le masque, c'est bon pour l'équilibre psychique et la vie sociale des enfants, disent les pédiatres. Et face à la crainte de certains épidémiologistes sur un possible rebond en hiver, le professeur Robert Cohen, pédiatre spécialiste des maladies infectieuses, plaide pour la prudence.
Je vous rappelle que en juillet et en août, un certain nombre d'épidémiologistes nous avaient promis l'enfer pour les enfants à la rentrée scolaire. C'est-à-dire des dizaines de milliers d'enfants malades toutes les semaines. C'est pas ce qu'on voit depuis l'ouverture des écoles. Et dans les études dont nous disposons, on s'aperçoit que le mode de contamination des enfants, même avec le variant Delta, reste plutôt intrafamilial que à l'école. Maintenant, je pense qu'il faut largement remplacer le port du masque dans les régions de faible incidence par des autotests, par des PCR salivaires de temps en temps. Il faut bien comprendre que le corollaire de l'absence de port du masque, pour moi, c'est qu'on teste plus souvent les enfants. Plus souvent, ça ne veut pas dire tous les jours. Hein. Ça peut être une fois par semaine, une fois pour les 15 jours, être très réactif quand il y a des cas, etc. Il faut s'adapter à la circulation virale.
Le professeur Robert Cohen avec Véronique Julia. Les enseignants demandent aussi plus de tests salivaires pour les 6 millions d'élèves du primaire. 300 000 sont proposés chaque semaine. Il en faudrait 20 fois plus.
Il est 7h05. 58 pages d'édition spéciale dans la Provence ce matin.
Le journal dont Bernard Tapie était propriétaire. Il publie d'ailleurs une lettre aux Marseillais signée Emmanuel Macron. Le visage de la victoire s'en est allé. Les mots du président de la République. L'homme d'affaires est décédé hier d'un cancer à son domicile parisien. Il avait 78 ans. Ses obsèques auront lieu vendredi à la cathédrale de Marseille à 11h, alors que, hasard du calendrier, la Cour d'appel de Paris devait se prononcer après-demain sur l'arbitrage controversé de la revente d'Adidas. 25 ans de feuilleton judiciaire, le combat d'une vie pour Bernard Tapie, poursuivi pour escroquerie et détournement de fonds publics, relaxé en première instance Mathilde Vinceneux. Il est donc mort innocent.
La cour d'appel ne pourra décider ni de la condamnation ni de la relaxe de Bernard Tapie dans cette affaire. C'est la fin des poursuites pénales à son encontre. 5 autres prévenus doivent en revanche être fixés sur leur sort, notamment Stéphane Richard, le patron d'Orange, Maurice Lantourne, l'ancien avocat de Bernard Tapie, et Pierre Estoupe, ex-magistrat. La question est de savoir s'il y a eu escroquerie lors de cet arbitrage et quelle est la responsabilité de chacun. Un arbitrage qui a déjà été annulé par la justice pour fraude. Bernard Tapie avait été condamné à rembourser plus de 400 millions d'euros. Si ses biens personnels ont été saisis, Bernard Tapie bataillait devant les tribunaux de commerce sur la liquidation judiciaire de ses sociétés et ses batailles peuvent continuer. Une procédure est aussi en cours sur le montant exact de sa dette.
Bernard Tapie qui aura aussi passé 165 jours en prison en 97, condamné dans l'affaire de match truqué VAOM. Nombreuses réactions dans le monde du sport, réactions politiques aussi, engagées et passionnées, dit de lui Gérard Larcher, le président du Sénat, habité par le talent, dit François Hollande. Une messe pour Bernard Tapie aura lieu après-demain à Paris. À Marseille, les supporters de l'OM lui rendront hommage la veille de ses obsèques, chapelle ardente jeudi au stade Vélodrome. Bernard Tapie, la mort d'un ambitieux, c'est aussi à lire sur franceinter.fr. Le grand écart entre les discours et les actes, nouvelle enquête du consortium international des journalistes d'investigation dont Radio France avec France Inter font partie. Les Pandora Papers révèlent que des dirigeants, des responsables politiques, des stars placent de l'argent dans des paradis fiscaux. Des milliers de milliards de dollars échappent ainsi à l'impôt, pas toujours de façon illégale. Secret d'info, c'est juste après ce journal. Un coup de fil ce matin entre les deux Corées. Les canaux de communication ont été rétablis entre le Nord et le Sud. Pyongyang les avait coupés en août, mais rétablis donc aujourd'hui. Geste symbolique de la Corée du Nord qui, dans le même temps, continue ses provocations et ses tirs de missiles. Et puis entre la France et l'Algérie, c'est plutôt tendance au refroidissement. L'Algérie a interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. Mesure de rétorsion après les propos d'Emmanuel Macron sur, je cite, la rente mémorielle entretenue en Algérie et un discours qui repose sur une haine de la France.
C'est une véritable déflagration, Anaïs, qui attend l'Église de France.
Et elle sera sans doute à l'image de celle qui a touché il y a 3 ans l'Église allemande. Enquête tentaculaire sur la pédocriminalité dans l'Église pendant 70 ans. Le rapport Sauvé sera rendu public demain. Il recense plus de 3000 prédateurs sexuels depuis les années 50. L'épiscopat français avait commandé cette enquête il y a 3 ans, évoquée hier dans toutes les paroisses de France. Béatrice Duguet s'est rendue à l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris.
L'office arrive à son terme quand Antoine de Folleville, l'un des curés de la paroisse,
mesdames, messieurs, chers frères,
relaie le message de Monseigneur au Petit, archevêque de Paris.
Ce rapport va présenter un tableau de ces faits particulièrement douloureux de pédophilie au sein de l'Église.
Faire de l'Église une maison plus sûre, dit aussi le prélat dans sa lettre, c'est ce qu'attend précisément Céline, maman de 4 enfants.
Pour moi, justement, ce travail de vérité et le fait qu'elle soit faite par des tiers à l'Église, ben, s'inscrit déjà dans une démarche qui, moi, me rassure.
Vincent aussi attendait ce moment avec gravité, certes, et une forme de soulagement.
Le problème, c'est pas le rapport. Le problème, c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai eu des cas autour de moi et des personnes n'ont pas reçu de réponse. Et enfin, que l'Église apporte une réponse, je trouve ça très bien. Et il y avait la phrase de Saint Jean, je sais pas si vous avez entendu, mais il n'y a que la vérité qui permet de s'en sortir. J'espère que tout le travail de vérité a été fait.
Même espoir pour Antoine de Folleville, car des vies brisées, il en connaît.
Une de mes amies, oui, qui a été une des victimes, et donc nous en avons beaucoup parlé, et même dans nos plus proches, nous pouvons être désarçonnés, en colère, honteux, et en même temps, puisque je suis prêtre, je demande la grâce et que l'Église vive un vrai travail de conversion.
Après l'état des lieux, les fidèles attendent des actes pour lutter contre cette pédophilie dans l'Église. Les évêques annoncent notamment la création d'un tribunal pénal canonique en septembre.
Le reportage de Béatrice Duguay, 2 décennies pour une prise de conscience des abus sexuels dans l'Église catholique française, c'est sur franceinter.fr. Le département des Bouches-du-Rhône passe en vigilance rouge, pluie, inondation, de fortes pluies attendues sur la Provence ce matin, avec des cumuls importants dans les Bouches-du-Rhône, jusqu'à 150 mm dans l'est du département. En Lozère, hier, on a relevé 365 mm dans les Cévennes. Et alors qu'on parle des intempéries, le CNRS nous parle, lui, de l'effet couette des forêts, publication de la première carte européenne de leur effet isolant. Car c'est bien là qu'il faut aller pour trouver de la fraîcheur en été et se réchauffer un peu en hiver, Célia Kiré.
En moyenne, l'été, il fait 2 degrés de moins à l'intérieur des forêts qu'à l'extérieur. Les arbres transpirent et rafraîchissent l'air ambiant. L'hiver, c'est l'inverse. Il fait plus doux sous la canopée. Mais avec leurs milliers de micro-capteurs placés dans les forêts européennes, les chercheurs comme Jonathan Lenoir du CNRS constatent qu'il y a des différences selon les secteurs. Les forêts plus denses, plus couvrantes sont plus isolantes et certaines essences sont plus efficaces.
Si on prend le hêtre en France ou le chêne, ce sont 2 essences forestières qui vont avoir un pouvoir à tamponner les températures et à les atténuer, les extrêmes, beaucoup plus important que d'autres essences forestières comme le pin sylvestre. Ou plus la forêt sera entre guillemets âgée, et plus le microclimat sera peut-être efficace, on aura un effet isolant plus important.
Il faut donc protéger les forêts les plus anciennes, affirme ce scientifique. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette carte européenne très précise, car ces forêts sont très utiles pour le climat.
La gestion forestière doit être aujourd'hui pensée aussi, pas seulement en termes de production de bois, mais aussi en termes de maintien d'une certaine capacité à isoler localement. Ça, c'est un service rendu par les forêts qui est encore pour l'instant sous-estimé.
Et en effet, ces forêts sont soumises à différentes pressions climatiques, sécheresse, tempête, sans oublier les activités humaines. L'exploitation du bois devra donc tenir compte à l'avenir de cet effet isolant des forêts.
Les forêts admirablement photographiées depuis l'espace par Thomas Pesquet, on ne s'en lasse pas. L'astronaute devient aujourd'hui le premier Français à prendre le commandement de l'ISS. On en parle à 7h30. Allez, des stars d'un autre type ce soir sur Canal+, le téléfilm d'Alex Lutz, La Vengeance au triple galop. Une parodie des soap opéra emmenée par Audrey Lamy et qu'Alexandra Acuna regarde et pour nous.
Du rire, de la passion.
Puis-je encore retirer ma montre bracelet avant de te refaire l'amour?
Oh. De l'angoisse.
Docteur Danley, je veux voir mon visage.
Pour une histoire de riche héritière au physique ingrat, Stéphanie Harper, trahie par son champion de marche rapide de mari, Craig Danners, est laissée pour morte, le visage dévoré par un puma. Sauvée par un chirurgien plastique, Stéphanie revient se venger sous une nouvelle identité inspirée par une boîte de Doliprane.
Je m'appelle Dolipraneurs.
À la bonne heure, bienvenue Dolly.
Une comédie chorale aussi kitsch que La Vengeance aux deux visages, le soap australo-américain des années 80 qu'elle parodie, tout en petites phrases ridicules.
Il y a 2 choses que je sais reconnaître dans la vie, les menteurs et les faux sacs à main.
Épaulettes et perruques grotesques, Alex Lutz s'appuie sur une brochette de comédiens impeccables, Audrey Lamy, Leïla Bekti, Isia.
Je veux descendre, ça suffit, vous n'êtes pas mes parents. Je dois travailler mon piano pour le concert de ce soir au Remington Hall.
Guillaume Gallienne, Marion Cotillard, Gaspard Ulliel, tous, c'est évident, s'amusent. Nous, passé la première demi-heure, on y a quand même trouvé quelques longueurs.
Voilà, ben, chacun de se faire un avis, hein, je dirais. Alex Lutz sera d'ailleurs l'invité de l'Instant M tout à l'heure à 9h40.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, secret d'info sur les Pandora Papers, nouvelle révélation autour des paradis fiscaux.